le plus grand mystère de la vie, c'est la vie elle-même. Les vivants ont la vie, mais l'ayant, aucun ne sait vraiment ce qu'il a. Qu'est-ce que la vie ? Dire qu'il n'y a pas, sur toute la terre, une seule personne qui connaisse la réponse à cette question. Et au-delà de la vie de l'homme, il y a l'existence de l'univers tout entier, de ce monde hallucinant au sein duquel notre soleil lui-même n'est que poussière. On sent bien que tout cela fait partie d'un seul et même mystère. Et on sent aussi que de tout ce que nous connaissons, une seule chose est à la taille de ce mystère. Cette chose, c'est l'amour. Oui, on pressent qu'entre le mystère de la vie et le mystère de l'amour, il y a des liens profonds, une parenté secrète, que tout cela vient de la même source. Quand Jésus dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer, ce n'est pas parce que l'amour représente une bonne morale, c'est parce que l'amour seul, à travers toutes les épaisseurs de mystère, nous arrive de la source de la vie et des mondes, et qu'il est seul digne d'y retourner. Seigneur, nous te devons tout et nous avons besoin de toi. Nous te bénissons de nous faire écouter ta voix, toi la source de l'amour. Fais-nous goûter la joie et la paix de ta présence. Amen.
Oh,
Du haut des cieux, Dieu veille sur le monde. Il contemple chacun de ses enfants. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui forme le cœur de chacun. Il pose son regard sur ceux qui le craignent. Il veille sur ceux qui espèrent en son amour. Il les délivre de la mort. Il les garde en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Notre espoir est en toi. Ce matin, nous lirons deux passages. Le premier est tiré du prophète Ésaïe au chapitre 61, les versets 10 et 11. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me revêt, et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête, ou de la fiancée parée de ses bijoux. En effet, comme la terre fait sortir les pousses, ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé, ainsi le Seigneur fera germer le salut et la louange devant l'ensemble des peuples. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, nous lisons les versets 26 à 29. Jésus disait encore : Voici à quoi ressemble le règne de Dieu. Quelqu'un jette de la semence dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même d'abord la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de blé dans l'épi. Dès que le blé est mûr, on se met au travail avec la faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Ses bottes étaient lourdes d'une terre fraîchement mouillée. Dans sa main, elle tenait un ou deux paquets de graines. Une bêche tordue reposait dans un coin, près d'un petit monticule de mauvaises herbes en attente d'être débarrassée. Au milieu du jardin, deux plants de persil semblaient démesurément grands et avaient l'air perdus en pleine terre. En me voyant arriver, elle releva la tête et un sourire vint traverser un visage qui portait encore le chagrin d'avoir perdu un être cher. Ce soir-là, la campagne était belle. Nous avons parlé de sa hanche qui lui faisait mal, de la solitude trop lourde à porter le soir, des patates encore à planter et notre Éo qui se faisait trop rare dans ses luttes. Les derniers rayons de soleil jetaient leur lumière chaude sur ce coin de jardin. Un silence s'installa. Une larme roula lentement le long d'une ride profonde. Cette larme me parut grosse de toute la souffrance du monde. L'interminable conflit en Palestine, les tueries en Syrie ou en Libye, les déplacés birmans, les bateaux qui chavirent en Méditerranée, mais aussi toutes ces luttes pour plus de dignité au travail, pour une société plus juste, plus belle, cette attente fatiguée d'un monde qui fasse enfin naître la joie. Sans savoir pourquoi, j'ai tout à coup pensé à ce verset d'Ésaïe « Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. » Pourtant, je réalisais que ces quelques mots résonnaient comme un déni de réalité, comme une contestation de tout ce que tant de gens peuvent vivre comme difficulté et comme épreuve. À son époque déjà, le prophète Ésaïe se trouvait face à une situation dramatique. Le peuple d'Israël faisait face à une crise de l'espérance, car le salut de Dieu tant annoncé se faisait attendre. N'est-ce pas ce que beaucoup vivent aujourd'hui encore, à force de le proclamer, de le célébrer, de le prier pour qu'il vienne, que ton règne vienne? Combien aspirent à pouvoir goûter sa paix, et surtout après une vie de labeur, de lutte, de doute? C'était aussi la grande division et même les conflits qu'il y avait entre les Juifs du pays et les étrangers, ces immigrés imposés par le roi d'Assyrie. Les deux communautés vivaient mal ensemble, et cette situation engendrait le mépris de certains groupes envers d'autres. Dans notre société aussi, on sait que la haine se nourrit très vite des différences ethniques, culturelles ou religieuses, spécialement à l'égard des étrangers qu'on accuse si facilement de tous les maux, d'être la source de toutes sortes de problèmes. Ésaïe nous rapporte encore la course obsédante au succès, aux richesses, au pouvoir, à vouloir posséder toujours plus, quitte à marcher sur les pieds des autres. C'est dans ce contexte sombre, qui fait si fortement écho à ce que nous vivons aujourd'hui, qu'Ésaïe vient dire la joie, le bonheur et le salut en Dieu. Et il le fait en prenant l'image du jardin, de la semence, de la germination, des pousses. Comme la terre fait sortir les pousses, ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé, ainsi le Seigneur Dieu fera germer le salut et la louange devant l'ensemble des peuples. Nous sommes tous, à un degré ou à un autre, confrontés à des difficultés qui n'ont pas à être comparées à celles des autres, mais qui sont suffisamment réelles pour occuper notre cœur et notre esprit. Et pourtant, nous sommes tous invités à préparer notre vie pour l'ensemencer et pour y planter quelque chose qui y pousse et grandisse. Nous souhaitons tous voir notre existence encore plus belle, plus riche de fruits et de beauté. Et c'est cela qu'Ésaïe veut nous redire aujourd'hui, à savoir que Dieu s'occupe toujours de notre avenir, et que notre temps, le temps qu'il nous reste, nous est offert pour le mettre en valeur, pour défricher nos vies, les ensemencer et permettre à des pousses de grandir. Mais en ces temps de crise, notre espérance chancelle. L'avenir nous paraît incertain. Si cette pandémie a pu nous prendre tous par surprise, que va-t-il encore nous arriver de pire? Alors nous nous accrochons à notre passé, à notre histoire, et nous nous détournons de l'avenir. Nous nous lamentons qui nous offrira la santé, du travail, des relations plus satisfaisantes, des familles plus unies, une vie plus confortable. Qui labourera, ensemencera les jardins de nos vies? Dieu, bien sûr. Mais si Dieu n'avait qu'une once d'autorité sur le monde, il aurait déjà dû la montrer en nous réservant un avenir radieux. Surtout qu'il ne nous demande pas de prendre la bêche et de nous atteler à sarcler notre propre jardin. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mais la joie dont Ésaïe tente de rendre compte prend sa source dans le temps qui vient. Ou dit autrement, ce n'est pas ce que nous avons vécu et ce que nous vivons qui devrait nous priver de trouver notre joie en Dieu. Rien n'est jamais fini, surtout pas la joie. Beaucoup de gens se demandent comment croire en un futur différent d'un passé difficile. Comment imaginer un avenir plus paisible où nous pourrions déposer toutes nos luttes et toutes nos lourdeurs. Mais Dieu n'a jamais fait l'impasse sur nos chagrins. Dieu n'a jamais promis un monde délivré de toutes ses morsures. Par contre, Dieu a promis que la joie ne disparaîtrait pas. C'est le sens de la résurrection, une contestation radicale de toutes les puissances de mort, d'un rappel qu'il n'y a aucune autorité définitive, hormis la sienne. Et si, pour nous, ce temps d'épreuve était le temps d'accueillir la promesse de Dieu? Si c'était le temps de regarder les signes de la vie qui reprend toujours, de retourner à nos vies comme on retourne à la terre et de se souvenir de ce qui a été semé, un peu à la manière de ces jardiniers qui, rien qu'en regardant leur semis, voient déjà les couleurs des fleurs qui vont pousser. Discerner dans les mots ou dans les événements discrets qui nous sont donnés l'envie de continuer malgré toutes les raisons que nous avons d'arrêter. Continuer à vivre, non pas en piochant dans nos réserves et en se disant que le grenier est suffisamment plein pour tenir bon, parce que la vie ne s'emmagasine pas ainsi. On doit la cultiver, l'entretenir, l'arroser, la bichonner. Continuer à vivre en devenant acteur de sa propre vie, et non pas en restant spectateur et en serrant les dents pour que ça passe le plus vite possible. Tout reprendre et déposer en terre, pour que des racines se forment et assurent le lien avec une croissance qui vient d'ailleurs, reliée aux autres et reliée à un autre, à celui-là même qui nous arrache à la mort. Mes amis, et si ce temps de confinement nous était donné pour que nous fassions l'expérience du jardin, déposé dans une terre qui ne nous appartient pas ce qui nous a été confié. C'est ainsi que Marc nous invite à entrer dans le mystère du royaume de Dieu. Un royaume qui ressemble à une lente germination un peu mystérieuse. À nous de faire notre part, de semer en son temps et d'attendre que la semence germe et grandisse. Si la vie peut être comparée à une plante qui pousse, on peut alors dire que la mort s'est arrêtée de croître ou arrêtée de croire. C'est pour cela que Dieu s'offre comme un repère, un lieu où enraciner notre confiance en la vie. Dieu nous appelle à la vie, nous les vivants, comme il appelle aussi à la vie ceux qui sont morts. Attendre patiemment, comme nous y invite la parabole de Marc, que les graines germent sans que l'on sache comment, c'est faire l'expérience de ne plus vouloir tout tenir. C'est accepter qu'un autre fasse croître en soi les graines de vie et de joie, car on ne s'improvise pas joyeux. C'est aussi inscrire en soi la possibilité de se laisser surprendre par la joie de Dieu, c'est-à-dire la joie qui vient de Dieu. Et cette joie-là est de l'ordre de l'expérience inoubliable, comme un habit de fête qu'on revêt, comme une manière d'être au monde et d'être beau, parce que la joie est belle et débordante, communicative. C'est aussi de cela qu'il s'agit dans notre vie chrétienne. De pouvoir, à côté de notre fantastique capacité à être entraîné par les difficultés de nos histoires, à nous laisser saisir par un sentiment qui nous emmènera plus loin, beaucoup plus loin que les feuilles mortes de nos vies. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Oui, la joie est semblable à une source qui déborde, semblable à tout ce qui s'éveille, à tout ce qui vient déchirer, le froid, l'absence, la mort. La joie vient de Dieu, comme un jardin qui s'éveille. Et tout à coup, on découvre que les choses changent et germent. La joie, c'est l'entrée en salut. Amen. Merci Seigneur pour ces moments où tu nous remplis de ta force, de ta plénitude et de ta joie. Merci pour tous ces moments où pour nous, d'une certaine façon, le royaume est déjà là. Nous aurions bien envie de planter nos tentes et de nous installer là, près de toi, loin de tous ceux qui souffrent et qui doutent. Toujours à nouveau, tu nous appelles et nous avons du mal à repartir. Tire-nous de notre confort et de nos conformismes pour nous remettre en chemin. Toi qui es venu partager les joies et les peines des hommes et des femmes, c'est au milieu d'eux que tu veux nous rencontrer. Amen. Cette semaine, marchez avec confiance. Le Seigneur vous accompagne et vous garde. Et qu'avec Ésaïe, vous puissiez dire « Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante ».